Donc bonjour, je vais vous parler moi donc d'une partie de mon travail de postdoctorat au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, qui a porté sur la représentation sociale de l'arbre hors forêt en milieu urbain et périurbain. En effet, il existe encore très peu d'études des freins et des leviers plutôt socio-psychologiques à l'essor de l'agroforesterie en milieu tempéré. Et on peut noter le travail de Samuel Perrichon qui a travaillé sur le bocage, les représentations sociales du bocage en Bretagne. Et ces travaux, ils avaient exploré déjà un peu la manière dont les agriculteurs intériorisent ou non les nouvelles demandes sociales sur les paysages agricoles dans leur activité. Et il avait suggéré que cette intériorisation était plus importante pour les agriculteurs périurbains, posant ainsi un peu la question de l'influence des représentations urbaines sur les territoires périurbains qui leur sont interconnectés. Et donc, dans ce travail, nous, on avait proposé de nous intéresser aux représentations de l'arbre chez les habitants urbains et périurbains en Île-de-France, qui est donc l'agglomération la plus peuplée de France, mais aussi une région agricole, mais où l'on trouve très, très, très peu d'agroforesterie, et où, évidemment, donc, le remembrement a fait bien son œuvre également. Donc, moi, je me suis spécifiquement donc intéressée à la dynamique spatiale de la représentation sociale de l'arbre. Et pour cela, on avait fait l'hypothèse qu'il existait un lien entre ce que j'ai appelé l'urbanité des personnes, donc leur type de lieu d'habitation, de lieu d'enfance et leur sentiment d'appartenance à une culture plus ou moins urbaine, et leur distance socio-psychologique à l'arbre. Donc ça, c'est un concept en sociopsychologie qui inclut donc le degré de pratique, l'implication psychosociale et la connaissance perçue de l'objet, donc en l'occurrence l'arbre. Et par ailleurs, donc, il y a des travaux précédents sur ces thématiques-là qui ont montré que cette distance à l'objet pouvait influencer la représentation sociale de l'objet. Et donc, on a voulu explorer un peu comment ça se jouait dans le cas de l'arbre. Donc, pour ça, j'ai utilisé une démarche de type questionnaire en deux parties. La première qui cherche à recueillir les représentations sociales de l'arbre grâce tout d'abord à un exercice qu'on appelle d'association libre, pardon, où on a demandé aux gens donc de citer les premiers mots qui leur venaient à l'esprit spontanément en pensant au mot arbre, mais aussi via plusieurs questions ouvertes pour pouvoir creuser cette thématique. Donc une qui demandait de commenter a posteriori le choix des mots qui étaient venus, et l'autre qui demandait à la personne de décrire ce qu'était pour elle la campagne idéale. Donc la deuxième partie, c'était une série de questions fermées qui permettaient d'évaluer donc les variables que j'avais choisies sur la distance à l'objet, ce que j'appelle l'urbanité, ainsi que des variables démographiques comme l'âge et le sexe. Donc ce questionnaire, il a été diffusé en ligne, entre autres, parce qu'on a aussi fait des enquêtes sur le terrain, mais j'en parlerai pas aujourd'hui, en région Île-de-France, et on a obtenu à peu près 900 réponses au sein desquelles on a pu en récolter 387 complètes et émanant de franciliens ou de franciliennes. Et donc, parmi ces répondants, on trouve une centaine de Parisiens, environ 150 personnes qui sont dans les départements de la Petite Couronne, donc qu'on avait qualifié des départements plutôt urbains, et une centaine dans ceux de la Grande Couronne, qu'on avait qualifié donc de périurbains. Et nos répondants et répondantes sont majoritairement des femmes, comme c'est souvent le cas sur les questionnaires en ligne. Il y a un biais connu par rapport à ça. Et ils ont entre 18 et 85 ans, avec quand même une dominance de plus jeunes. Donc pour ce qui est des résultats, en fait, j'ai hiérarchisé les mots que les gens ont choisis lors de l'évocation libre en fonction de leur fréquence d'apparition et de leur rang d'apparition, donc dans quel ordre ils sont apparus dans les listes des gens. Et donc, dans cette théorie des représentations sociales, on considère que les mots cités les plus fréquemment dans la population et en moyenne dans les premiers constituent potentiellement ce qu'on appelle le noyau central, donc une partie stable et consensuelle de la représentation sociale. Ici, on voit que le noyau central, pardon, il est considéré des termes donc nature, vert, feuille, forêt, vie et oxygène. Donc, afin de comprendre un peu les significations qu'il y a derrière ces associations de mots, on s'est intéressé à la question ouverte sur comment pouvez-vous commenter votre choix de mots. Alors, pour ça, donc ça, c'est des réponses ouvertes. Donc, les gens ont rédigé une explication celle qui leur a convenu. Et donc, ces réponses, elles ont été soumises à une analyse de type lexicométrique, donc, qui permet d'identifier ce qu'on appelle des mondes lexicaux utilisés par les répondants. Donc, un monde lexical, c'est caractérisé par des ressemblances entre des segments de texte qui partagent les mêmes mots. On peut ensuite calculer des corrélations entre les variables que je vous ai présentées tout à l'heure et le type de lexique utilisé par les personnes dans leurs réponses. Donc, notre analyse, elle a d'abord distingué en fait deux grandes branches, donc la violette qui est séparée des autres, qui en fait est un discours sur l'exercice d'avocationnisme lui-même et non sur l'arbre. Presque. Je vais me dépêcher parce que et en fait, on remarque que presque 28% des personnes interrogées n'ont pas parlé de l'arbre quand ils ont répondu à la question, mais de ce qui s'était passé dans leur tête pendant l'évocation libre. Ils ont eu une explication sur ce qui s'était passé cognitivement. Ensuite, parmi les différents discours, donc tous les autres, les quatre autres sur l'arbre, on distingue donc différentes choses. Et on remarque que en fait, les mots du noyau central représentent des mondes lexicaux différents, donc des dimensions différentes dans la représentation. Donc ainsi, on a le mot nature qui appartient à un discours sur l'arbre comme symbole de la nature en ville. Le mot vert qui s'insère dans un discours sur l'arbre comme une composante du bien-être et de l'esthétique en ville. Le mot feuille qui s'insère dans un discours sur la relation directe et sensorielle à l'arbre via, on a eu beaucoup de discours sur le bruit des feuilles dans les arbres avec le vent. Et enfin, les trois derniers termes qui sont souvent associés représentent une autre dimension, celle de l'arbre vu comme une composante clé de l'écosystème via la production d'oxygène. Et on peut noter que les liens arbre-agriculture n'ont été que extrêmement rarement évoqués. Donc pour ce qui est de l'influence des variables dont je vous parlais, on a trouvé très peu d'influence en fait, du lieu de vie sur le type de lexique utilisé. On a seulement remarqué que l'usage d'un discours sur le rôle de l'arbre dans l'écosystème était significativement lié avec le fait d'avoir une enfance rurale ou d'habiter dans un milieu périurbain. Pour ce qui est de la distance à l'objet, on a observé une légère influence. Donc, les personnes qui étaient distantes de l'arbre sont souvent celles qui ont parlé de l'évocation libre plutôt que de me parler de l'arbre. Et les personnes les plus proches de l'arbre m'ont plutôt parlé donc de l'importance pour le bien-être en ville. Donc, pour aller un peu plus loin, je me suis intéressée à la question sur la campagne idéale en utilisant la même méthode d'analyse lexicométrique, qui a fait apparaître donc cinq mondes lexicaux différents qui correspondent en fait à différents archétypes de campagne idéale pour les personnes interrogées. Et donc on peut distinguer d'une part des discours en rouge et orange là, les discours qui présentent la campagne idéale en évoquant en fait les interactions humain-nature. Et la majorité de ces discours parlent de manière très générale et très conceptuelle de ce que les gens ont évoqué, ont parlé d'harmonie homme-nature. Et une plus faible proportion a mis l'accent sur le respect de l'environnement vers les activités agricoles. Mais vous voyez, c'est 13%, c'est beaucoup plus petit. D'autre part, on a distingué donc les autres discours, donc violet et les deux verts, qui s'attardent davantage sur la physionomie de la campagne idéale et ce qui est visible de l'extérieur. Et donc là, on a trois visions, celle d'un paysage diversifié, type décor avec un peu de tout. On a un paysage que j'ai qualifié plutôt de sauvage, où en fait les activités agricoles sont exclues, ce qui est un peu paradoxal pour une campagne, mais donc c'est des gens qui veulent une campagne sans agriculture. Et enfin, celle d'une campagne jardin que l'on souhaite habiter plutôt dans sa bulle. Et donc, si on s'intéresse pour terminer, après j'ai fini, aux variables qui sont liées à l'usage de ces différents archétypes, en fait, celle qui joue le plus, c'est le type d'espace de nature le plus fréquemment visité par les personnes. Et on a vu que ceux qui utilisent plutôt la vision de l'harmonie homme-nature très générale et très vague sont davantage mobilisés par les personnes qui fréquentent les parcs urbains. Celle du paysage décor diversifié, plus mobilisée par les personnes qui fréquentent les paysages agricoles, mais donc des urbains qui fréquentent les paysages agricoles. Tandis que ceux qui fréquentent tout souvent la forêt évoque davantage la campagne idéale sauvage. Donc, ces résultats, ils sont assez récents pour moi. Je n'ai pas encore beaucoup de recul dessus, mais je vous propose quelques pistes de discussion, puis après, on peut en parler. Donc, j'ai trouvé que la représentation sociale de l'arbre que j'avais mis en évidence était structurée par des usages plutôt indirects, comme donc, le symbole de nature en ville ou une fonction support des écosystèmes, plutôt que des usages directs, style fruits, bois de chauffe, fourrage, etc., que l'arbre était relativement présent dans la représentation sociale urbaine et périurbaine de la campagne idéale, mais qu'à l'inverse, l'agriculture et la campagne étaient quasiment absentes de la représentation sociale de l'arbre, et que donc, les espaces de nature fréquemment visités semblaient contribuer à l'image normative que les personnes se font d'une campagne idéale, et de la place de l'arbre dans cette campagne. Voilà, je vous remercie.
Merci. Je suis un peu surpris. Moi, il m'arrive de plus en plus fréquemment et même assez régulièrement que je reçois des sollicitations en zone urbaine ou centre-bourg de conflits liés à l'arbre, puisque l'arbre pose des feuilles dans les gouttières, salit mon jardin et c'est l'arbre du voisin, donc c'est juste pas normal. Il y a des gros problèmes de chiure sur ma voiture au niveau des parkings. Il y a aussi une réalité pour laquelle on est confronté d'un désagrément, pour le moins au niveau de l'arbre. Ta question était très ouverte, tu n'as eu aucun retour négatif ou de problématique de sécurité également pour les communes, enfin j'en passe, liées à cette représentation libre.
Alors, non, ce qui nous a surpris également, parce que c'est vrai que quand on avait fait un peu d'études de la littérature, on avait trouvé beaucoup de choses, en particulier une étude à Lyon qui a été faite sur tous les courriers qui sont envoyés à la municipalité de plaintes sur... Et là, non, effectivement, on a eu vraiment une espèce de... J'ai une représentation qui est tout à fait idyllique, très pro-arbre. Alors, il y a plusieurs hypothèses par rapport à ça. Peut-être un biais d'échantillonnage. Parce que donc nous, on a voilà, ça c'est un peu une difficulté qu'on a pour ce type d'enquête, c'est que alors qu'on n'a pas, on n'est pas l'INSEE, donc on n'a pas des fichiers avec... on ne peut pas atteindre des échantillons représentatifs, donc on passe dans les réseaux de proche en proche, et donc souvent ça fait des échantillons qui sont éventuellement biaisés de ce point de vue-là. Et l'autre chose, il est aussi qu'il y a vraiment une différence entre le discours, c'est-à-dire que dans un questionnaire comme ça, sur là, peut-être que les gens ont envie de plutôt évoquer le rapport positif à l'arbre, alors que au quotidien, peut-être si on va aller voir chez eux ou peut-être si on va justement voir les courriers en mairie, on se rend compte que voilà, il y a une autre phase du, et ça nous voilà, on n'y a pas eu accès. Et c'est vrai que non, j'ai vraiment quasiment, enfin je dois avoir une réponse de quelqu'un qui s'énerve, mais on était très, enfin assez étonnés quoi, c'est-à-dire que c'est ouais.
Moi, j'ai une question qui concerne plutôt les autres variables qu'il pouvait y avoir dans le questionnaire, par exemple un talon sociologique sur la profession ou sur la formation, etc. Est-ce que vous avez pu voir des corrélations entre ces autres variables, finalement, qui pourraient expliquer du coup une représentation de l'arbre de telle et telle façon, quoi.
Oui, alors donc j'ai l'information parce qu'on a demandé aux personnes donc le domaine dans lequel, enfin leur profession et le domaine dans lequel elle exerçait. J'ai pas encore codé cette partie-là. Donc, en fait, là, j'ai les réponses, c'était une question ouverte. Donc là, j'ai à moi de, faut que je catégorise un peu. Et donc je peux pas répondre à cette question, mais effectivement, je pense que ça, c'est un contrôle important.
Oui, merci. Je suis vraiment frappée par. Ce déni de l'agriculture, finalement, oui, qui apparaît, le paysage rural est un paysage sans agriculteur, ça pose des questions. Et je mettrais ça en parallèle avec cette tendance très forte actuelle à idéaliser la forêt et l'arbre, hein, les bains de forêt, la vie secrète des arbres, la magie des arbres, enfin, tous ces livres. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le livre de Wohlleben, La vie secrète des arbres, est quand même un livre qui a suscité la création d'une pétition de plus de 7000 scientifiques européens. Pratiquement tous les forestiers européens l'ont signé. Je l'ai signé. Et pour moi, ce sont des livres qui mystifient tout, c'est-à-dire qui donnent des représentations des arbres qui sont tellement loin de la réalité qu'on est dans le domaine du rêve, on est dans le domaine irénique, on n'est pas du tout dans la réalité. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer? C'est-à-dire, en fait, est-ce que les arbres dont parlent les gens que vous interrogez sont vraiment des arbres?
Alors, oui, enfin, moi je suis assez d'accord avec ce diagnostic. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est ce qui ressort un peu plus quand on regarde plus qualitativement. Parce que là, je vous ai fait un peu les grands axes un peu quanti. Mais après, quand on s'intéresse plutôt au discours des personnes, effectivement, hein, moi j'ai été assez étonnée. Il y a une espèce de mystification. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a, en tout cas dans certains milieux urbains, en tout cas ceux que j'ai pu atteindre, une forme d'idéalisation et de mystification du rapport à la nature qui, en fait, peut sembler au premier abord d'être un levier pour l'agroécologie en disant voilà les gens et en fait je pense pas tant que ça et c'était un peu ce que je voulais montrer avec le fait que les personnes par exemple qui sont plus qui fréquentent plus les parcs urbains ou qui sont plus urbaines sont celles qui m'ont fait un discours sur la campagne idéale, c'est là où il y a une harmonie homme-nature, mais on ne sait absolument pas ce que c'est. C'est très vague c'est très idéologique. Et finalement, ce sont des personnes qui sont plutôt distantes de l'objet. Et donc, effectivement, moi, c'était voilà, c'est effectivement quelque chose que. Et ce livre, j'en avais un peu discuté avec là, parce que j'ai aussi fait des enquêtes sur le terrain en Seine-Saint-Denis, à Duny, avec une stagiaire. Et elle a eu des discours. Des choses très. Oui.
Oui, juste moi j'ai une petite interrogation sur le mot campagne qui n'est pas neutre, qui a aussi d'ailleurs d'autres significations. Hein. Campagne idéale, c'est peut-être celle d'Emmanuel Macron, d'arriver de rien et devenir président.
Fois, quelqu'un m'a dit que c'était la campagne présidentielle.
Le mot campagne. Non, mais plus sérieusement, nous il est parfois réfuté, parfois. Problématique, parfois considéré comme on l'a vu sur l'ancien exposé, est-ce que la campagne, c'est pas justement les arriérés, donc nous, on est en zone rurale, on n'est pas en campagne, etc. Est-ce que tu as, dans tes questionnaires, eu à définir ce mot ? Est-ce que les gens t'ont demandé qu'est-ce que vous entendez par campagne ? Ou est-ce que c'est d'une évidence pour tout le monde ? Il y a la ville, il y a la campagne. Alors que les pénétrations sont considérables, interchangeables, etc.
Oui, alors, donc du coup, là, moi, dans la question, ce n'était pas une catégorie géographique. J'ai voulu faire réagir les gens et en faisant les tests, etc., avec des personnes, on a l'impression que c'est ce qui parlait le plus à notre public. C'est quelque chose qui faisait immédiatement parler les gens. Alors, il faut savoir que dans ça, c'est en fait, ces questions-là, je les ai posées toutes à la fin, les questions ouvertes. Et avant, donc, j'avais toutes mes questions... par contre, pour ce qui est quand je parlais de la fréquentation des espaces, etc., je parle de paysage agricole. Je parlais pas de campagne uniquement dans cette question-là, qui était vraiment destinée à faire sortir un peu voilà, les imaginaires, les normes un peu sous-jacentes par rapport à ça. Donc, c'était un choix, oui. Mais j'ai eu l'impression, en tout cas, que sur les répondants en ligne, je ne sais pas, mais j'ai pas eu de commentaires. Par contre, sur les gens qu'on a interrogés en face-à-face, que ça marche, ouais, enfin, que c'était... Ça a suscité aucune interrogation.
Juste, peut-être que j'ai mal compris, mais c'était un échantillon, enfin c'était un questionnaire en ligne, hein, c'est bien ça ?
Oui.
Est-ce que tu as eu l'idée de coupler ce questionnaire avec des enquêtes directes, avec un micro-trottoir, tout ça, pour essayer d'avoir aussi un panel de gens que tu n'aurais pas eu
Oui, alors c'est ce que je disais. Enfin, donc on a eu 80 personnes qu'on a interrogées, donc effectivement dans les espaces publics. Mais là, on avait ciblé sur un territoire, donc sur une ville en Seine-Saint-Denis qui s'appelle Duny. Et donc là, on est allé à la rencontre des habitants pour leur poser exactement les mêmes questions. Mais par contre, en face à face, donc ça induit. C'est pour ça que j'ai pas mis les mêmes. Enfin, je les ai pas mis dans le même analyse parce que c'est malgré que c'est les mêmes questions, le fait que ce soit fait en face à face, ça induit quand même des types de réponses un petit peu différentes. Et effectivement, on est allé voir ces personnes. Et donc là, c'est un profil un peu différent. Là, on connaît un peu mieux la sociologie de la ville, etc. On a un peu plus d'éléments de contexte pour parler de ça. Et donc typiquement, sur ces personnes qu'on a interrogées en face à face, qui nous a un peu interpellés, et ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que donc Duny, on l'avait choisi parce que c'est une ville où il y a énormément d'espaces verts, qui est limitrophe d'un super grand parc, le parc de la Courneuve. Et en fait, les gens n'ont jamais parlé des arbres chez eux. Alors, il y a une autre question dont je n'ai pas parlé là, mais je leur ai aussi demandé aux personnes de me raconter un souvenir concernant un arbre. Donc ça, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi une question là-dessus. Et quand les gens me parlent d'un souvenir concernant un arbre, ce n'est jamais un arbre urbain. Paradoxalement, donc, en fait, la représentation de l'arbre, c'est l'arbre urbain, mais par contre, si on leur demande un souvenir, c'est toujours un arbre qui était ailleurs, loin, soit au bled pour ceux qui sont issus de l'immigration, soit à la campagne, chez les grands-parents pour les autres, etc. Et il n'y a aucun contact direct en fait à l'arbre. Et donc du coup, ça introduit une vision tout à fait... Donc c'est comme s'il y avait deux arbres en fait. Il y a, voilà, il y a...
Alors, des questions ?
bonjour. Sur Samuel Fichet de l'association Promet. Sur la diapo de la campagne idéale, dans la liste des mots qu'il y avait représentés, il y avait notamment le mot voiture et le mot pollution. Alors, je vous laisse savoir un peu comment tu expliquais l'apparition de ces mots-là par rapport à cette question.
Alors, donc là, les mots sont extraits de discours. Hein, c'est pas les gens qui m'ont donné juste ces mots-là. Et donc ça, c'est donc il y a un discours sur l'accessibilité de la campagne idéale. Donc une campagne idéale, soit il faut qu'elle soit à la fois éloignée mais accessible. Donc il peut y avoir à ce moment-là l'usage du mot voiture. Et sinon, il y a le fait qu'il y a aussi donc surtout dans le discours campagne jardin. Donc c'est là, oui, c'est ça qu'on parle. En fait, tout un discours sur l'opposition ville campagne qui est assez caricatural. Mais avec la campagne qui est le calme, un endroit sain, etc., et la ville qui est bruyante, polluée. Et donc, il y avait des gens qui disent un endroit sans pollution ou sans voiture. Et à ce moment-là, j'ai ces mots-là qui apparaissent sans la négation qui est juste devant.
Une autre question ?